Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahman Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 19h30 temps universel. On est vendredi 1er décembre 2017 au sommaire. Tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie. Nous ferons le point dès le début du journal avec entre autres la réaction d'Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de football. Un nouveau gouvernement au Zimbabwe, l'armée et les cadres de la ZANU-PF sont bien représentés. Célébration de la journée internationale de lutte contre le sida, la maladie recule dans plusieurs pays africains. Et ici aux États-Unis, Michael Flynn, l'ancien directeur de la sécurité nationale, a été inculpé pour avoir menti au FBI, la police fédérale américaine. Il a plaidé coupable et promis de coopérer. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique. Tout de suite le journal. Actualité oblige, nous allons commencer cette édition avec du football, avec notamment le tirage des groupes qui vont s'affronter en 2018 pendant la Coupe du Monde en Russie. Et pour en parler, nous recevons tout de suite Nicolas Pineau dans ce studio. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Abdourahman.
Alors Nicolas, le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc ont connu des fortunes diverses.
Et oui, sous les yeux du président russe Vladimir Poutine, le pays organisateur a hérité d'un groupe A plutôt relevé au regard de son niveau actuel. Le tirage au sort, vous le savez, a eu lieu au Kremlin. La Russie jouera son premier match le 14 juin au stade Loujniki de Moscou contre l'Arabie Saoudite et devra ensuite affronter l'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez et surtout l'Égypte de la star de Liverpool, Mohamed Salah. Dans le groupe B, ça va être très dur pour le Maroc face aux ogres portugais et espagnols, sans oublier l'Iran. Hervé Renard a dit on va jouer deux monstres. Dans le groupe C, c'est plus facile pour la France face à l'Australie, le Danemark et le Pérou. Et dans le groupe D, l'Argentine fera face au Nigeria, à l'Islande et à la Croatie. On se souvient, Abdourahman, que le Nigeria avait battu récemment en match amical l'Argentine 4-2. Groupe a priori très facile pour le Brésil. Dans le groupe E, face à la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Et puis dans le groupe F, championne du monde en titre, l'Allemagne jouera contre le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Là encore un groupe à sa portée. Les deux derniers représentants africains dans les deux derniers groupes. Dans le groupe G, la Tunisie face à la Belgique, le Panama et l'Angleterre. Et enfin le dernier groupe, le groupe H, celui du Sénégal, plutôt équilibré avec la Pologne de Robert Lewandowski, le Sénégal, je le disais, de Sadio Mané, la Colombie de Radamel Falcao et le Japon entraîné par Vahid Halilhodžić.
Alors ma question, Nicolas, est-ce que l'Afrique va passer le premier tour de cette Coupe du Monde?
Bon, en tout cas, Abdourahman, on peut quand même nourrir des espoirs légitimes, notamment pour le Sénégal, le Nigeria et l'Égypte. C'est d'ailleurs l'avis du président de la Confédération africaine de football, Armat, qui réagit ce soir en exclusivité sur VOA Afrique depuis Moscou.
Comme vous savez, le football d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Il n'y a plus de petites équipes et tout peut arriver. Il y a un bon tirage au sort. La majorité des groupes sont équilibrés.
Ça va être dur pour le Maroc, hein?
Oui, c'est vrai. Sur le papier, c'est vrai. On peut pas prédire quoi que ce soit aujourd'hui dans le football moderne. Il faut se battre, c'est tout. Bien préparer et se battre, voilà, et être au point au jour J et à l'instant T du match. Et je crois que le plus important aujourd'hui.
On peut en tout cas légitimement penser que l'Afrique aura au moins un représentant en huitième de finale.
Je pense même pas un seul. Je pense qu'on peut envisager 2-3 au tour suivant.
Voilà, c'était Armat, le président de la Confédération africaine de football. Autre avis ce soir qui va vous intéresser, Abdourahman, celui d'Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football.
D'abord, on a la satisfaction de se dire qu'on a évité certains cadeaux, mais je pense aussi qu'en même temps, c'est là-bas que réside le piège. On a un groupe très homogène, avec des équipes qui se tiennent de près. Et donc, si on est pris par le péché de l'excès de confiance, on est mort dans ce groupe-là. Il faudra batailler pour se sortir si les équipes se tiennent de près.
Voilà, c'était Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. On rappelle, Abdourahman, le tirage au sort pour les sélections africaines. Dans le groupe A, l'Égypte face à la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Dans le groupe B, le Maroc face au Portugal, l'Espagne et l'Iran. Dans le groupe D, le Nigeria face à l'Argentine, l'Islande, la Croatie. Et dans le groupe G, la Tunisie face à la Belgique, au Panama et à l'Angleterre. Enfin, dans le groupe H, le Sénégal face à la Pologne, la Colombie et le Japon.
Merci Nicolas Pineau, vous étiez en direct dans Le Monde aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, au moins une personne est morte lors des marches de l'opposition hier contre le président Kabila. Des marches interdites et réprimées par les forces de sécurité. La victime est morte à Butembo, dans la province du Nord Kivu, fief de plusieurs groupes armés. Plus de 10 000 personnes fuyant les violences en République démocratique du Congo se sont réfugiées en Zambie depuis janvier. C'est ce qu'a annoncé l'ONU, qui dénonce aussi le sous-financement énorme des opérations d'aide dans ce pays. Le président camerounais Paul Biya dénonce des attaques à répétition d'une bande de terroristes sécessionnistes, une déclaration qui fait suite à la mort de 6 éléments des forces de sécurité tués mardi en zone anglophone par des séparatistes présumés. J'ai appris avec émotion l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays, a déclaré Paul Biya à son retour hier du 5e sommet Europe-Afrique à Abidjan. Et puis, un navire en provenance du Nigeria à destination de Douala a été attaqué par une bande armée en mer. Une information de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap, qui a été confirmée par une source de sécurité à Douala, une source qui a requis l'anonymat. Après une conférence de presse sévèrement réprimée à Brazzaville hier, des avocats congolais, sénégalais et français ont accusé les forces de sécurité du pays de violence et d'atteinte à la liberté de la presse. Clairement Hingebourg.
La conférence de presse devait se tenir dans les locaux de l'hebdomadaire catholique La Semaine africaine. Un groupe de journalistes, dont le correspondant de l'AFP et d'Africa News, devait rencontrer les avocats d'André Okombi Salissa, ancien ministre et membre de l'opposition. Plusieurs journalistes ont été tabassés et ont vu leur matériel confisqué. Un comportement qui dénote une volonté de museler la défense et la presse, a dénoncé le groupe d'avocats. Les directions de l'AFP et de RFI ont également condamné les violences envers leurs correspondants qui souffrent de perforations aux oreilles à la suite de l'agression. Joint par l'AFP ce soir, le ministre congolais de la Communication, Thierry Mungala, a indiqué qu'il ignorait tout de l'agression, mais qu'il condamne les faits si les journalistes étaient visés en tant que tels. Candidat à l'élection de 2016 contre le président Denis Sassou Nguesso, André Okombi Salissa est inculpé depuis le 23 janvier 2017 pour atteinte à la sûreté de l'État.
Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a nommé les premiers membres de son gouvernement, mais sans l'opposition. On fait le point avec Raissa Girondin.
Emmerson Mnangagwa a constitué hier son équipe gouvernementale. Le nouveau président zimbabwéen a récompensé les soutiens qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, un changement dans la continuité. C'est le retour d'anciens caciques du parti au pouvoir, comme Patrick Chinamasa aux finances, un portefeuille qu'il a déjà occupé sous le régime Mugabe. Le général Sibusiso Moyo, qui avait annoncé à la télévision le coup de force militaire, s'est vu confier les affaires étrangères. Le maréchal Perence Chiri, chef de l'armée de l'air depuis de nombreuses années, a reçu le portefeuille de l'agriculture, un domaine important pour le pays. Pas de gouvernement d'union nationale, car il n'y a aucun membre de l'opposition dans cette nouvelle équipe. L'annonce du nouveau gouvernement a refroidi les espoirs de changement de la population après 37 ans de régime Mugabe.
Un ressortissant portugais kidnappé au Nigeria le mois dernier avec une demande de rançon est mort en captivité, c'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministère nigérian des Affaires étrangères. C'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Les hommes sont moins susceptibles que les femmes d'effectuer un dépistage du VIH ou d'accéder à la thérapie antirétrovirale. Par conséquent, sont plus exposés au risque de mourir de maladies associées au sida. Le point avec Solange Nyamulisa.
Selon un rapport de l'ONU-SIDA, à travers le monde, moins de la moitié des hommes séropositifs sont sous traitement, comparé à 60% des femmes séropositives. Les hommes risquent plus que les femmes de commencer le traitement tardivement, de l'interrompre ou de ne plus être répertoriés comme suivant un traitement. Le sida ou les maladies associées ont fait 1 million de morts dans le monde en 2016 et environ 1,8 million de personnes supplémentaires ont été infectées. En Afrique subsaharienne, les hommes vivant avec le VIH ont 20% moins de chances de connaître leur état sérologique que les femmes. Ils sont aussi moins nombreux à avoir accès au traitement. Les homosexuels sont par ailleurs 24 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les hétérosexuels. Selon ONU SIDA, en 2016, quelques 36,7 millions de personnes dans le monde ont vécu avec le VIH et moins de 21 millions d'entre elles ont eu accès à un traitement antirétroviral. Les Nations Unies se sont fixées comme objectif de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 dans le monde.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, coup de tonnerre dans le dossier de l'ingérence présumée russe dans la présidentielle de 2016. L'ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump a été inculpé. Michael Flynn, qui a plaidé coupable, est accusé d'avoir menti au FBI. Des précisions avec Anastasie Touliech.
Michael Flynn a plaidé coupable, il n'y aura donc pas de procès. Il a été inculpé hier, entre autres, pour avoir menti sur la teneur de ses échanges avec Sergei Kislyak, ancien ambassadeur russe à Washington, notamment au sujet des sanctions imposées par les États-Unis à la Russie. En plaidant coupable, il indique qu'il est disposé à coopérer avec les enquêteurs, ce qui soulève toutes sortes de questions sur les informations qu'il s'est engagé à livrer aux enquêteurs. Jusqu'où ira-t-il pour tenter d'échapper à la prison? Mettra-t-il en cause des proches de Donald Trump, voire le président lui-même? Ni le président américain, ni la Maison-Blanche n'avaient réagi en milieu de matinée à ce rebondissement de taille qui assombrit ce qui s'annonçait comme une journée de victoire pour M. Trump avec le vote probable par le Sénat de sa grande réforme fiscale.
D'ailleurs, on reste aux États-Unis. Le Sénat reprend les débats ce vendredi sur la grande réforme fiscale promise par le président Donald Trump. La majorité républicaine espère que d'ultimes arbitrages permettront de faire adopter le texte. L'ONU cherche 22,5 milliards de dollars pour soutenir les personnes touchées par les conflits et les catastrophes dans le monde en 2018. Les conflits, en particulier les crises prolongées, continueront à représenter la cause principale des besoins en 2018, a expliqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Mark Lowcock. Et puis le président français Emmanuel Macron s'entretiendra demain à l'Élysée avec le premier ministre et le vice-premier ministre de la région autonome du Kurdistan irakien. Et cette rencontre intervient alors que la crise persiste entre Erbil, capitale du Kurdistan, et Bagdad, 2 mois après le référendum d'indépendance. Je rappelle que M. Macron avait appelé le premier ministre irakien Haïdar al-Abdel, reçu à l'Élysée, à dialoguer. C'était donc le mois dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco avec Eric Manerekiza.
Les nouvelles technologies menacent les emplois dans le monde. D'ici 2030, entre 400 et 800 millions de personnes pourraient perdre leur emploi et plus de 375 millions se tourneront vers de nouveaux emplois, soit environ 14% de la main-d'œuvre mondiale. D'après le cabinet de recherche McKinsey Global Institute, tout le monde devra acquérir de nouvelles compétences pour cet ajustement macroéconomique. Les gouvernements et les entreprises privées devront mettre la main à la pâte. La pilule pourrait être amère, prévient son cabinet britannique. Les cours du café, du sucre et du cacao ont tous baissé cette semaine. La faiblesse de l'offre et de la demande ont contribué à la déprime des prix de ces produits. Le Cameroun veut augmenter de 150% de la taxe d'aéroport pour les vols internationaux. Elle passera de 10 000 francs CFA à 25 000 francs CFA. L'année dernière, le trafic aérien a connu une hausse de 26%. Yaoundé attend une arrivée massive de touristes lors de la CAN 2019 qui se tiendra au Cameroun. Enfin, le Togo reçoit de l'Union européenne près de 2 milliards et 170 millions de francs CFA dans le cadre du projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale. Ce financement vise à favoriser l'accès des femmes à la vie politique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. Et on revient sur la journée internationale de lutte contre le sida aujourd'hui. Les Nations Unies veulent d'ici 2030 mettre fin à l'épidémie de sida dans le monde. En Afrique subsaharienne, les hommes vivant avec le VIH sont moins nombreux à accéder au traitement et à connaître leur état sérologique. Pour en connaître les raisons, Eric Manirakiza a joint à Genève le directeur de l'information stratégique auprès de l'ONU-SIDA, Peter Geis.
Nous pensons qu'il y a peut-être deux grands facteurs qui influent sur cela. Le premier, c'est que, disons, c'est par rapport au statut de l'homme et de la femme dans une société, où souvent dans des sociétés, l'homme est considéré comme quelqu'un qui doit être fort, responsable du revenu de la famille, etc. Et donc, ça peut influer sur la possibilité des hommes de se dire malades, de se dire intéressés à leur santé et donc d'accéder à des services de santé. L'autre facteur, c'est qu'il y a des services de santé qui se dirigent spécifiquement aux femmes, c'est-à-dire tout ce qui a rapport à la grossesse. Ce sont des services qui sont destinés à des femmes. À cause de ça, les femmes auront plus d'utilisation de services de santé et même il peut y avoir une perception que certains services sont vraiment, disons, destinés aux femmes et pas aux hommes. Et donc, ça peut influer sur le comportement des hommes.
En 2016, il y a eu 1 million de morts dans le monde et près de 2 millions de personnes supplémentaires infectées. Cela veut dire que les gens n'ont pas vraiment saisi les moyens de prévention.
Nous avons vu aussi ces dernières années une diminution du nombre de nouvelles infections. Parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus. C'était au-dessus de 3 millions de personnes qui étaient infectées par année. Et donc, il y a quand même eu du succès dans la prévention de nouvelles infections. Et donc, il y a plusieurs programmes qui ont influé sur ça. Il y a tout ce qui a rapport à l'éducation, les connaissances sur le sida, et bien aussi si le comportement, que ce soit au niveau du nombre de partenaires ou aussi l'utilisation du préservatif ou encore des programmes de prévention qui sont spécifiques, par exemple l'accent qui est mis sur la circoncision médicale dans certains pays et aussi les programmes pour les populations clés, que ce soit les travailleuses de sexe ou aussi des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Le traitement, non seulement il va étendre la vie de la personne qui vit avec le VIH, mais il va aussi diminuer la charge virale de ces personnes. Et donc, en diminuant la charge virale, on va diminuer la probabilité de transmettre le virus.
L'ONU-SIDA veut en finir avec cette pandémie d'ici 2030.
Bon, pour le moment, c'est difficile à dire, mais c'est en tout cas une ambition à laquelle on veut aspirer. Pour le moment, donc, il y a 16% de moins de nouvelles infections quand nous comparons l'année 2010 à l'année 2016. Il est effectivement possible d'atteindre ces objectifs.
C'était Peter Geis, directeur de l'information stratégique auprès de l'ONU-SIDA à Genève. L'Union africaine veut évacuer d'urgence 3800 migrants de Libye. Certains vont transiter par le Niger avant d'être renvoyés dans leurs pays respectifs et d'autres seront réinstallés en Europe. Ces évacuations paraissent compliquées, notamment en matière de logistique et de capacité d'accueil. Nathalie Barge a joint à Niamey Nabara Amidou. Il est le responsable de l'ONG Jeunesse Enfance Migration et Développement.
Cette situation sera plus compliquée que ce qu'on a souhaité, d'autant plus que personne ne maîtrise les chiffres sur les personnes concernées actuellement par le problème en Libye. C'est une situation chaotique. Vous avez par-ci, par-là, un gouvernement reconnu par la communauté internationale. De l'autre côté, Haftar qui contrôle une partie du territoire. Vous avez les milices de part et d'autre dans le pays qui, si vous voulez, sont impliqués chacun selon un certain degré.
Est-ce que
selon vous, le Niger est bien équipé au niveau logistique et matériel pour recevoir ces migrants?
Ça fait longtemps que déjà des autorités locales d'Agadez se plaignent sur des opérations de rapatriement qui ont été faites des migrants subsahariens à partir d'Algérie et qui se retrouvent à partir d'Agadez sans ressources et que les communes là ont malheureusement un déficit, si vous voulez, en termes d'infrastructures d'accueil et des services minimums qui pourraient être accordés aux migrants. Et on voit que les autorités affirment vouloir s'engager dans cette perspective, mais en réalité, un dispositif d'accueil et de prise en charge n'est pas totalement satisfaisant et ne qui puisse répondre vraiment aux normes minimales en termes de protection des migrants qui sont dans la nécessité. Et le droit international interdit de ramener une personne dans son pays quand elle risque la répercussion.
Alors justement, l'Union européenne a bien précisé qu'elle intégrerait donc certains de ces migrants donc qui ont le statut de réfugiés. Est-ce que vous pensez que cette affaire, l'affaire de la Libye, cette affaire qui se passe en ce moment, va permettre une nouvelle politique d'immigration entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus ouverte, notamment avec plus de collaboration avec les pays tiers?
C'est ce que nous souhaitons. On a dit au-delà de la crise qui secoue actuellement la Libye, la grande partie des causes de ce qui se passe à Libye est liée en partie aux politiques qui sont menées par l'Union européenne sur les questions d'immigration et dans lesquelles elle essaie aussi d'impliquer les pays africains. Beaucoup de pays africains n'avaient pas de stratégie sur les questions d'immigration. C'est avec la crise migratoire à partir de 2015, suite au sommet de la Valette, que certains pays africains ont essayé d'aller dans le sens d'élaborer des politiques migratoires, qui sont, si vous voulez, largement inspirés de la politique de l'Union européenne. Et nous espérons que ces drames-là devraient interpeller toutes les parties prenantes pour accepter que la migration soit effectuée dans la dignité. Cela passe par un allègement des conditions d'immigration.
C'était Nabala Hamidou, responsable de l'ONG Jeunesse Enfance, Migration et Développement au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
L'inclusion est l'un des concepts en vogue en ce 21e siècle. L'idée est simple. Pour une situation ou une activité donnée, inclure toutes les composantes de la société sans discrimination de genre, de race ou de capacité physique. La preuve, par l'exemple, au centre des aveugles de Togoville, à 80 km de Lomé, une association a lancé un projet d'équipement d'ordinateur pour la formation de jeunes élèves non-voyants. Un reportage de VOA Afrique rendu par Raïssa Girondin.
Nous sommes à l'Institut des aveugles de Togoville. Situé à une centaine de kilomètres au sud-est du Togo, ce centre accueille des jeunes non-voyants âgés de 12 à 20 ans. Grâce à une formation en informatique, ils manipulent aisément un ordinateur de la mise sous tension à la déconnexion. Les élèves du centre savent comment scanner des documents, ils écrivent des textes, reçoivent et envoient des emails et parlent à des correspondants via Skype. Kossi Sewonu, élève à l'Institut.
Grâce à ce projet, moi je suis capable et aujourd'hui de créer des dossiers et de saisir des tests et de scanner, d'aller sur Internet.
Les enseignants et formateurs de l'Institut sont aussi des non-voyants. Après une formation spécifique donnée dans le centre par des bénévoles, ils sont désormais mieux outillés pour accompagner les élèves qu'ils encadrent. Tout se passe via un système audio et des raccourcis clavier. Kojo Mensa, enseignant à l'Institut.
L'accès à l'informatique des personnes non-voyantes est facilité par des lecteurs d'écran, dont JAWS, la solution d'accès au travail grâce à la parole. Donc vous écoutez JAWS parler et il vous dit tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Il lit l'information, il lit l'environnement de votre travail et il peut facilement vous indiquer parfois, ce que vous devez faire dans telle ou telle condition pour contourner des difficultés.
Ce programme connaît un franc succès. Il participe ainsi à l'inclusion sociale des déficients visuels. La réflexion est en cours pour améliorer quantitativement et qualitativement l'accessibilité des non-voyants au contenu sur Internet par la mise à disposition d'autres matériels.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Direction Johannesburg pour rencontrer une jeune artiste qui fait son petit bonhomme de chemin dans le monde de la chanson. Sisana a fait face à plusieurs obstacles avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. La mort de ses parents, le chômage et la famine. Elle a malgré tout rejeté un contrat d'enregistrement offert par un grand label pour garder le contrôle sur sa musique et sur son identité. Elle a fini par créer sa propre boîte de production. Salwa Jafari l'a rencontrée à Johannesburg alors qu'elle se préparait à entamer une tournée internationale.
J'ai décidé d'enregistrer mon propre album. Je n'ai pas de studio, je n'ai personne. Les studios sont chers. J'ai des enfants et je dois payer le loyer. Je touche 900 dollars quand je travaille comme choriste. Alors j'ai pris la décision de rentrer chez moi, mais de ne pas acheter de la nourriture. Je sais qu'on n'en a pas assez.
À 26 ans, Sisana a fait l'impensable. Tourner le dos à trois labels de musique pour s'embarquer dans une aventure solo à ses risques et périls. Nous l'avons rencontrée dans ce modeste complexe d'appartements à Johannesburg. Elle y vit avec ses trois frères cadets.
Je suis une maman à temps plein. Je m'occupe de deux ados et d'un garçon de 10 ans. Je vis ici depuis 2011. Ma grand-mère est morte. J'ai pris en charge mes petits frères, mais je vais déménager bientôt.
Sisana a connu la faim, le froid, la peur de voir sa famille se retrouver dans la rue. Mais elle n'a jamais perdu espoir. L'espoir qu'un jour, sa musique serait écoutée sur toutes les ondes. Cette musique avec laquelle elle a grandi sur les plaines du Swaziland.
Je chantais et j'attendais que les montagnes me répondent avec un écho.
À l'université, elle choisit d'étudier le journalisme audiovisuel. Elle rêve de devenir Oprah ou de chanter un jour sur la chaîne nationale.
J'ai passé 2 à 3 ans à me renseigner sur les labels de musique. Ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est quand ils t'enregistrent. Ils font tout et tout leur appartient.
Elle peine à joindre les deux bouts après la mort de sa grand-mère, fait des petits boulots, travaille comme choriste pour des chanteurs de renom. Elle se serre la ceinture et avec ses économies, elle enregistre son premier album. Africa is my home. Africa is where. L'Afrique, c'est sa maison qu'elle va bientôt quitter pour une tournée internationale qui l'amènera en Europe, aux États-Unis. Sisana, la chanteuse, la productrice, ira à la conquête du monde.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, zouk, reggae, salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'était le titre « Je t'aime trop » signé Lanaya. C'était un choix de Lionel Gaïma qui a réalisé cette édition du Monde Aujourd'hui. À la console, il y avait Cédric Franklin, présentation Abdourahmania. Merci d'avoir suivi. Ainsi va le Monde Aujourd'hui. On reste en contact sur notre page Facebook et également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.